Chapitre 8. Jean-Marie. Chantecoq, qui semblait très satisfait de la conversation qu'il venait d'avoir avec Anne, s'était retiré dans sa chambre. Il avait besoin, suivant son usuelle expression, de mettre un peu d'ordre dans ses idées. Il s'installa sur une chaise devant une petite table en bois blanc sur laquelle il appuya ses coudes, et la tête entre les mains, il se plongea dans ses réflexions. Voici le monologue intime auquel il se livra. Évidemment, tout cela est encore un peu bouteille à l'encre, mais franchement, je n'ai pas à me plaindre, puisqu'au cours d'une première et très superficielle enquête, j'ai découvert un indice qui peut évidemment me donner de bons résultats. Cette marque sur l'épaule de cet enfant inconnu, R.F., qu'est-ce que cela veut dire? République française, je ne le crois pas. Ce sont plutôt les initiales de son nom ou un signe distinctif destiné à faire reconnaître plus tard la véritable identité de l'abandonné. Mais n'anticipons pas. Prenons plutôt l'affaire à la base. Quand on veut construire une maison, on commence à choisir un bon terrain et à lui assurer des fondations à toute épreuve. Mais en police, c'est la même chose. Il n'y a pas de métier où l'on doit mieux se préserver de toute impression trop impulsive. On a dit, et on répète encore souvent, trop souvent, que le hasard est le dieu des policiers. Oui, mais dans une certaine mesure. Si nous comptions toujours sur le hasard pour nous mettre la main sur le malfaiteur que nous sommes chargés de découvrir, celui-ci aurait vraiment la part trop belle. Je crois qu'on pourrait désaffecter un certain nombre de prisons, ce qui aurait peut-être pour conséquence d'atténuer un peu la crise du logement, mais ne contribuerait pas précisément à assurer la sécurité de nos concitoyens. Commençons donc par résumer les faits qui m'ont mené ici et par établir nettement les données du problème que je suis appelé à résoudre, avec la clarté, la précision, l'esprit de méthode remarquable qu'il apportait toujours dans la préparation de chacune de ses campagnes, le roi des détectives posait. À Noël dernier, dans la villa de l'Américain James Wheelwright, pendant le réveillon, des phénomènes bizarres se sont produits, tendant à démontrer que, selon une légende accréditée dans le pays, il y avait des revenants sur la côte sauvage qui, à l'époque des grandes fêtes religieuses, s'en viennent tourmenter les vivants. « Il existe, m'a dit M. Lachesnais, un procès-verbal relatant ces faits, et signé non seulement par le propriétaire de la villa hantée, mais encore par ses invités. » Tous, paraît-il, gens de très bonne foi et d'honorabilité indiscutable. À consulter, oui, passons. Le 15 août dernier, c'est-à-dire avant-hier soir, les mêmes phénomènes, à peu de choses près, se reproduisent dans la villa des Lachesnais. Aucun doute à cet égard. Monsieur Lachesnais s'en va trouver le brigadier de gendarmerie de Quiberon, qui lui déclare que, selon lui, c'est un coup de contrebandier qui, gêné par la construction d'une villa sur les ruines d'un fortin abandonné dont ils avaient fait presque certainement leur entrepôt, ont voulu effrayer ses hôtes afin de les en faire déguerpir dans le plus bref délai. Explication qui, de prime abord, tient debout. Mais si l'on veut se donner la peine de l'approfondir, on s'aperçoit, surtout quand on a quelque expérience policière, combien elle est tirée par les cheveux. En effet, il faudrait que ces contrebandiers dussent bien audacieux ou eussent bien de temps à perdre pour employer de tels procédés qui risqueraient fort de leur retomber sur le nez et de leur attirer les plus graves désagréments. Quoi qu'il en soit, le brigadier de Quiberon, qui d'ailleurs est loin d'être un sot, a fait partager sa conviction au docteur Le Bosser et à Jean Lachesnais, qui eux aussi sont fort bien loin d'être des imbéciles. Alors, il est entendu que le brigadier et un de ses hommes passeraient la nuit à Quai-Rivette et que les douaniers monteraient une garde vigilante et discrète aux alentours de la prétendue maison hantée. Mais crac, après avoir mangé des boules, nos deux représentants de la maréchaussée tombent malades au point de se trouver dans l'incapacité absolue de reprendre leur service avant quelques jours. Le docteur Le Bosser confère avec le brigadier de la douane. Deux braves gabelous doivent venir à Quai-Rivette remplacer les gendarmes involontairement défaillants. Et ils ne viennent pas. Il sera très intéressant de savoir pourquoi. Et cela dans le plus bref délai. Bon, à noter. Détail non moins important, trois domestiques sur quatre, c'est-à-dire le chauffeur, la cuisinière et la femme de chambre, pris de peur, s'empressent de déguerpir dans la journée, se procurer leur nom et, si c'est possible, leurs adresses. Bon, enchaînons. Avec son élan et son courage habituel, ce brave Le Bosseur, ne voulant pas laisser seuls ses amis la Chesnaye, décide de passer la nuit auprès d'eux. Après avoir dîné ensemble et constaté la carence des douaniers, tous trois se retirent dans l'atelier et attendent les événements. Vers 22 heures, leur voisin Will Wright, indisposé depuis le matin et se sentant plus souffrant, envoie chercher le docteur qu'il sait se trouver chez la Chesnaye. Le Bosser s'empresse de se rendre à son appel, constate qu'en effet l'Américain est atteint d'un accès de fièvre que, selon toute vraisemblance, il attribue au paludisme, lui fait prendre un cachet de quinine et reprend le chemin de Quai-Rivette. En route, il bute contre un fil de fer tendu au travers du chemin, tombe, reçoit un coup sur la nuque qui l'étourdit. Il ne se réveillera que le lendemain dans le creux du rocher, où il ne s'est absolument pas transporté tout seul. D'ailleurs, ainsi qu'il le déclare lui-même, le traumatisme qu'il a reçu étant absolument insuffisant pour expliquer un aussi long évanouissement, et il a certainement fallu, pour qu'il fût immobilisé aussi pendant plusieurs heures consécutives, qui subit l'influence d'un très puissant narcotique. Ceci est très important. Pendant ce temps-là, à Quai-Rivette, suivant l'expression d'Anne, le raffut recommence, accompagné cette fois d'un événement qui est évidemment le but auquel tendaient les organisateurs de ces étranges pantalonnades. Soudain, l'obscurité se fait et les Lachesnais sont enfermés dans l'atelier. Ils entendent tous les deux des coups, des pas, des cris. Lui veut se précipiter au dehors par une fenêtre. Impossible d'en ouvrir les auvents. De nouveaux bruits, des pas qui s'éloignent vers le sous-sol. Puis la porte s'ouvre comme par enchantement. La Chesnaye et sa femme s'élancent dans le vestibule, gravissent l'escalier. La porte de l'honneurserie est ouverte. Affolés, ils y entrent. La nounou ronfle à poing fermé. Il y a toujours un enfant dans le berceau, mais cet enfant n'est pas le leur. Tableau. Et s'épongeant le front où ruisselaient de nombreuses gouttelettes de sueur, Chantecoq grommela. Ouf, ouf, respirons. Il sortit de sa poche une pipe en racine de bruyère et se mit à la bourrer consciencieusement avec du tabac ordinaire qu'il avait pris dans une blague très simple. Il l'alluma à l'aide d'un briquet et en tira quelques bouffées qu'il regarda s'envoler à travers la fenêtre ouverte. Sa pipe était pour le grand limier une source féconde d'inspiration. Au bout d'un instant, l'œil brillant, les narines dilatées, tout l'esprit tendu vers l'énigme qu'il avait résolu de déchiffrer, Chantecoq se posait cette éternelle question. Et pourquoi a-t-on volé cet enfant? Pourquoi l'a-t-on remplacé par un autre? Puis il se remit à penser. Les déclarations si nettes, si catégoriques de la Chesnay établissent d'une façon péremptoire que la vengeance ou la jalousie ne sauraient être le mobile du crime. Reste l'intérêt. Bon, examinons le fait brutal, matériel. Un enfant bien portant substitue un autre enfant qui n'a plus que quelque temps à vivre. Supposons que ce pauvre gosse succombe. Oui, et après? Les auteurs de la substitution n'ont pas été assez stupides pour se figurer un seul instant que le père et la mère allaient reprendre cet avorton à leur compte. Et ils n'avaient certainement pas prévu que Madame la Chesnay perdrait la tête au point de se persuader. Ah, attention! Le limier inspira quelques nouvelles bouffées de tabac. Ben, je vais peut-être formuler une grosse bêtise, se dit-il, et commettre en même temps la pire des injustices. Mais n'ai-je pas le droit et même le devoir, dans une affaire aussi mystérieuse, de me livrer aux hypothèses même les plus hardies? Bref, et ceci pour moi seul, bien entendu. Supposons que Madame la Chesnay, au lieu d'être l'épouse irréprochable, aimante et fidèle entre toutes, telle que me l'ont dépeinte son mari et le docteur Le Bossert, était au contraire une de ces gourgandines hypocrites qui, sous des allures angéliques, dissimulent une âme de démon. Quelle es-tu, à l'insu de tous, une liaison adultère, et qu'elle ait acquis la conviction, la certitude, que l'enfant n'était pas de son mari, mais de son amant. Supposons toujours que celui-ci ait exigé de sa maîtresse qu'elle lui remît le gosse, et que celle-ci, soit qu'elle obéit à sa passion, ou qu'elle redouta un chantage, y eût consenti. Toute cette comédie des revenants s'explique ainsi que celle de sa subite amnésie. Et alors, Sainte-Coque eut un geste d'agacement et il se prit à grommeler nerveusement. Bon, ça m'est-ce que je deviendrai gâteux? Comment ai-je pu, en effet, m'aventurer un seul instant sur une pareille piste? Mais si cette version était la bonne, si réellement cette jeune femme avait consenti, ce qui serait déjà pas mal invraisemblable, a confié son petit à son amant. Pourquoi diable son complice et elle auraient-ils eu l'idée de le remplacer par un gosse qui n'a plus que le souffle et, par-dessus le marché, porte sur l'épaule un cercle bleu avec ses deux lettres RF, qui peut très bien servir à la fois pour le faire reconnaître et remplir de nos jours le rôle qu'a tenu si longtemps dans les vieux romans feuilletons et les mélodrames du répertoire, l'antique et fameuse croix de ma mère. Et tout en s'inclinant devant un personnage imaginaire, le grand limier ajouta d'un air contrit. Pauvre petite Madame la Chesnay, je vous fais toutes mes humbles excuses, et je vous promets que je ne recommencerai plus. Et après avoir tiré encore sur le tuyau de sa pipe, le roi des détectives se dit: « Eh bien, cherchons encore !» Il se leva, s'enfuit de la fenêtre qui donnait sur la mer. Tout en contemplant le panorama grandiose qui s'étalait devant lui, il se replongea dans ses réflexions. Au bout de quelques minutes, ses traits se détendirent. Une flamme joyeuse illumina ses yeux, et de ses lèvres entr'ouvertes un fin sourire, ces mots s'échappèrent. « Oh, mais cette fois, je crois que j'ai trouvé. Mon premier instinct ne me trompait pas. Il y a là-dessous tout un drame d'argent que je reconstitue ainsi. Des gens ont un enfant qui est appelé à recueillir une succession importante. Si cet enfant vient à mourir, la fortune qui lui est destinée passe en d'autres mains. Le bébé tombe gravement malade, on consulte la faculté décrète que le gosse est perdu. Que font les parents qui, à coup sûr, sont doués d'une conscience plutôt élastique? Ils décident de substituer à l'héritier défaillant Un solide poupon qui sera de taille à supporter le choc de la fortune. Seulement voilà, que va-t-on faire de l'autre? Hâter sa fin. On a beau être cupide, aimer l'argent par-dessus tout, il a des crimes tellement atroces, tellement sauvages, que les plus endurcis reculent avant de les commettre. À moins encore que les ayant ordonnés, ceux qui ont été chargés de les exécuter au moment décisif en éprouvent une telle horreur que, malgré le mandat impératif qu'ils ont reçu, ils préfèrent l'abandon à l'assassinat et se refusent, comme on dit dans l'Évangile, à immoler l'innocent. Mais ceci est du détail. Ce n'est pas le moment de nous en occuper. Chaque chose a son tour et a sa place. Voici donc un principe posé, une base établie, une passerelle sur l'abîme. De la croix, c'est solide pour m'y aventurer sans crainte de me casser les reins. Mais marchons prudemment et poursuivons notre raisonnement. Il est évident que les ravisseurs du petit Jackie n'ont pas choisi cet enfant au hasard. Avant tout, il leur fallait un bébé bien portant, robuste. Pour l'avoir pris dans un milieu social aussi relevé, il faut qu'ils appartiennent également à une classe importante de la société. Il est donc évident que les Lachesnais n'étaient pas pour eux des inconnus. Et il est non moins certain que pour avoir organisé dans leur villa un sabbat aussi corsé, ils en connaissaient les êtres aussi bien et peut-être mieux que ses propriétaires. Eh bien, voilà qui est déjà pas mal pour un début, mon vieux Shadcock. Je te pardonne d'avoir bafouillé au début. Oh, te voilà dans la bonne voie. Tâche de ne plus en sortir. Bon, maintenant, réalisons. Avant de parcourir le cercle des relations de ces pauvres Lachesnais, besogne délicate qui forcément exigera du temps et du doigté, la première chose à faire est de découvrir comment nos gredins, oh, car ils étaient certainement plusieurs, ont réussi à s'introduire dans cette maison et à s'y livrer à ces manifestations fantomatiques. Oh, pour cela, il faut que j'attende le retour de Météore, qui ne saurait tarder. Il secoua, sur le bord de la fenêtre, la cendre de sa pipe éteinte, et il se préparait à bourrer de nouveau son calumet, lorsque la sonnette de l'entrée retentit. Oh, c'est lui, ou plutôt c'est elle, fit Chantecoq, qui s'empressa de descendre. Il ne s'était pas trompé. C'était bien son secrétaire qui, sous son accoutrement de la cuisinière Armandine, qu'il portait avec de plus en plus d'aisance, fit, en lui désignant une carriole attelée d'un cheval vigoureux et conduit par un gaillard non moins solide, les mâles sont là. Et où faut-il vous les monter? Demandait l'indigène. Oh, vous n'avez qu'à me suivre, mon ami. Je m'appelle Jean-Marie. Quel est? Se présentait rondement le quiberonnais. Mais vous pouvez dire Jean-Marie. C'est comme ça que tout le monde m'appelle ici. Jean-Marie sauta en bas de son véhicule et s'en fit ouvrir le panneau qui enfermait le fond. Il saisit une première malle et la chargea sur ses épaules. Elle devait être assez lourde, car malgré sa force, et bien qu'il eût une grande habitude de coltiner des colis assez lourds, il ploya sur les reins. Mais il se redressa aussitôt et pénétra dans la maison sur les talons du pseudo-valet de chambre. 5 minutes après, les deux malles étaient arrivées à destination. L'une dans la chambre d'Augustin, l'autre dans celle d'Armandine. Combien vous dois-je? Demanda Chantecoq au commissionnaire. C'est 20 francs et un verre de vin. Eh bien, voici 20 francs, ripostait le détective en remettant un billet à Jean-Marie. Ben, quant au verre de vin, comme nous revenons seulement d'arriver ici, nous ne savons pas encore où se trouvent les choses. Mais voici un supplément de 5 francs au lieu d'un verre. Vous pourrez vous en offrir une bouteille. Vous êtes un bien brave homme, s'écria le commissionnaire. Je vais vous serrer la main. Avec plaisir, acceptait Shancock. Jean-Marie, tout en étreignant vigoureusement les phalanges du limier, reprenait. Comme vous vous en direz, vous aurez comme le faire dire, pour que je revienne prendre vos bagages. Oh, fit le détective, je crois que nous sommes ici pour un bon bout de temps, n'est-ce pas, Amandine? Oh, je le crois, mon oncle, le faux valet de chambre déclarait. La maison n'a pas l'air d'une boîte. Monsieur et madame nous ont paru très gentils. Oui, mais... ponctua le breton d'un air mystérieux. Mais quoi ? Interrogeait Shancock. Au rien, fit le commissionnaire, avec un air finaud et réservé. Ah, c'est la nourriture, questionnait le limier, en simulant une légère inquiétude. Oh non, ripostait Kellec. Alors quoi ? Bon, après tout, je peux bien vous le dire. Et baissant la voix, Jean-Marie prononça lentement ces mots qui semblaient avoir pour lui une grande importance. « Il paraît que Rivette, c'est une maison hantée. »« Mais qui vous a dit cela ?»« Ben, ce sont les domestiques qui étaient ici avant vous. »« Pas possible. » Jean-Marie crânait. « Bon, j'y crois pas, et vous ?»« Oh, pas du tout. » Oui, vous avez bien raison, n'est-ce pas? Et vous, mademoiselle Armandine? Oh, je suis comme mon oncle. Pour moi, cette histoire, ça a été inventé par les vieilles bonnes femmes, pour faire peur aux enfants. C'est toujours ce que je me suis dit, prétendait Jean-Marie. Mais après une légère pause, et tout en se grattant l'oreille, il fit. Pourtant... « Et pourtant quoi ?» scandait Shancock. Le commissionnaire répliquait. « Ben, je serais pas autrement surpris qu'ici, avant-hier, il soit passé les choses pas ordinaires. »« Mais pourquoi dites-vous cela ?» demandait le détective. « Oh, parce que... » D'un caractère prudent et même méfiant, Kellec hésitait visiblement à s'avancer. Mais vous pouvez parler sans crainte devant nous, encourageait le limier. Magnès et moi, nous sommes des gens très discrets, et pour rien au monde, nous voudrions attirer des ennuis à un brave garçon comme vous. Encouragé par cette déclaration, Jean-Marie reprenait. Alors vrai, vous me permettez que vous répéterez à personne, pas même à vos patrons, ce que je m'en vais vous dire. Oui, oui, c'est entendu. « Eh ben voilà, » posa le breton. « Faut vous dire que je suis pas seulement commissionnaire. Je fais aussi la pêche au homard et à la langouste. J'ai un bateau à Port Maria. Vous connaissez pas Port Maria ? Oh, c'est un des ports de Quiberon, celui qui est à l'ouest, au bout du pays, sur la droite, en descendant, après qu'on a passé la statue de Hoche. Vous voyez maintenant où ça se trouve ? Oui, 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 je vois, martelait Shancock, que tous ces détails n'étaient pas sans impatienter un peu, car il n'avait qu'une hâte, savoir ce que contenait le sac que son interlocuteur se préparait à vider. Jean-Marie poursuivait. Avant-hier soir, j'étais parti avec Ferdinand, mon garçon, et le petit Gouzic, le fils à François Gouzic, dont le mari s'est noyé il y a 2 ans. J'ai pris avec moi parce que Françoise Gouzic, qui est un peu ma parente, travaille dans une usine de sardines et qu'elle n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de son gamin. Alors, coupait le détective, afin de rappeler à son sujet le narrateur, qui n'avait que trop de tendance à s'en écarter. Alors, continua Jean-Marie, avant-hier soir, vers 8 heures, comme il soufflait un bon petit vent, nous en fûmes sur notre bateau. Je l'ai baptisé Saint-Antoine, parce qu'il paraît que quand on appelle une barque Saint-Antoine, on perd jamais un casier, même quand il y a un gros tabac en mer. Ça doit être vrai, car depuis 2 ans que j'ai collé ce nom-là à mon rafio, jamais encore j'ai rien laissé dans le fond. C'est bien possible, soupirait Shancock, résigné maintenant à laisser son interlocuteur tirer toutes les bordées qu'il voudrait. Jean-Marie, qui d'ailleurs passait pour un des plus fins conteurs de toute la région, poursuivait. Alors nous voilà donc partis de Palmaria pour aller déposer nos casiers du côté de Madagascar. Madagascar? S'écria Météor. Matin, c'est un peu loin pour aller chercher des homards. Oh, c'est pas le Madagascar que vous croyez, rectifiait Jean-Marie. C'est une petite île, ou plutôt un gros rocher, qu'on appelle comme ça, et qui se trouve presque en face Kerné. Et approchant de la fenêtre, il fit: Tenez, on le voit très bien d'ici. Derrière, il y a un défaut où le homard donne pas mal, même que. Redoutant que le prolixe Jean-Marie ne se laisse entraîner à lui faire un cours sur la façon de pêcher ce savoureux crustacé, que M. Prudhomme a surnommé le cardinal des mers, Chantecoq s'empressa de le ramener à la question. Alors, dit-il, c'est là que vous allez déposer vos casiers. Parfaitement, appuyait Jean-Marie. Tout se passe d'ailleurs sans histoire, bien que, comme toujours dans ces coins-là, il y a eu un peu de mer. C'est pas un coup de roulis ou de l'entangage qui nous fait peur, nous autres. On n'est pas des terriens. Soit dit, sans vous offenser, chacun son métier, n'est-ce pas? Vous feriez pas le mien, mais moi, je serais pas capable de faire le vôtre. Et puis, bon Saint-Antoine, il tient joliment bien la mer. C'est Monsieur Le Sieur qui l'a construit. Oh, c'était un rude homme que Monsieur Le Sieur. Il avait son chantier de l'autre côté de la baie de Quiberon, à l'Anse-du-Pont. Qui travaillait bien, et consciencieux, et de parole, et honnête. Malheureusement, il est mort l'année dernière d'un coup de sang. Maintenant, c'est son fils Pierre. Chantecoq l'interrompait. Et après que vous avez dû poser vos casiers? J'y arrive, monsieur Augustin. Et c'est là, justement, que Ferdinand, le petit Josique et moi, on a vu. Eh ben, on a vu ce qu'on a vu. Et quoi donc? Ben voilà. Le temps, qui jusqu'alors avait été très beau, commence à se gâter. La brise fraîchit et la lune se cacha derrière de gros nuages noirs. Alors je m'écriai: Oh les gars, voilà un grain qui se prépare. Faut rentrer tout de suite, il s'agit pas de muser en route. Et quelle heure était-il? Questionnait le détective. Je n'ai pas regardé, ripostait Keinec. Mais il pouvait être entre 10 et 11 heures du soir. Mais continuez, je vous prie. Et au moment où nous mettions à la voile pour rentrer, nous entendîmes tout à coup un bruit de moteur qui s'approchait de nous. Moi, je pensais que c'était un chalutier qui rentrait au large, et je dis aux enfants: Attention à ne pas nous faire aborder. Pourtant, vous aviez vos feux réglementaires, observait Chantecoq. Et comment? Scandait Keinec. Jamais on navigue sans ça. Le règlement, c'est le règlement. Moi, je suis pour qu'on l'observe. Et la preuve que j'ai raison, c'est que l'année dernière, le père Lethier, résolu à ne plus poser une seule question à Jean-Marie, Chantecoq coupait. Et ce chalutier? Eh ben, monsieur Augustin, ça n'en était pas un, même que j'ai jamais vu un bateau pareil. Son moteur continuait toujours à gronder, même que ça faisait un pétard. Et on n'apercevait toujours rien. Lorsque tout à coup le petit Legouzic, qui a des yeux aussi perçants qu'un courlis, et qui voit aussi clair dans la nuit qu'un chat, me dit: Regardez donc, patron, c'est pas un bateau qui vient sur nous, c'est comme qui dirait un gros pot bleu. Les pots bleus, monsieur Augustin, c'est des petits requins. Oui, je sais, je sais. Alors j'ai écarquillé les yeux. Ferdinand aussi. Et nous vîmes passer, à peu près à 50 mètres de nous, une sorte de canot à vapeur dont l'avant était fait comme le capot d'une automobile. Le milieu et l'arrière étaient plats comme une limande. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est qu'il semblait marcher tout seul. Alors donc, ouais, monsieur Augustin, ça je vous le jure, il n'y avait personne dans le canot. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il continuait à marcher sans être piloté par personne. Pourtant, c'est pas commode la nuit, surtout, de se guider à travers tous les rochers à fleur d'eau qui sillonnent la côte. Faut être très fort ou tout à fait fou. Vous pensez bien, monsieur Augustin, qu'on s'est pas mis à la poursuite du bateau. D'abord parce qu'il allait bien plus vite que nous. Ensuite parce qu'il y a des histoires dont il vaut mieux ne pas se mêler. Alors on a mis la barre vers le sud et on est rentré à Port-Maria. Et le surlendemain, quand le bruit s'est répandu dans le pays, qu'il y avait eu des revenants à la Kervivette, le petit Legouzic m'a dit: Patron, c'est sûrement ce qui arrivait avant-hier soir, dans le drôle de bateau qu'on a croisé en revenant de poser nos casiers. Ferdinand et moi, on a haussé les épaules, car on ne croit pas aux revenants. On est des hommes, nous autres, et voilà. Sainte-Coque, ce récit paraissait avoir beaucoup intéressé, reprenait sur un ton volontairement surpris. Oh, c'est très curieux ce que vous me racontez là, mon brave Jean-Marie. Là, je suis encore tout retourné, déclara Météor Armandine, avec une émotion non moins bien simulée que la surprise du limier. Il y a de quoi, n'est-ce pas? S'exclamait Kevlek. Et quel est votre avis là-dessus? Interrogeait le détective. Je sais pas, Chantecoq insinuait. C'était peut-être des contrebandiers qui cherchaient à débarquer du tabac ou de l'alcool. Oh, le contrebandier, répétait le Breton d'un air sceptique. Alors, messieurs, donc bien des méfaits. Mais sûr qu'on en emprunte plus qu'ils en font. On prétend qu'il y en a eu dans le temps, par-ci, et que même ils cachaient leurs camelotes dans les souterrains du vieux fort sur lequel on a construit Kerivette. Eh bien, possible, mais moi j'en ai jamais vu. Ni les douaniers, ni personne. Ils ont beau être malins, ça n'empêche pas que s'ils avaient fait leur trafic dans ces parages, depuis le temps qu'on le dit, ils seraient déjà fait chipper. Faudrait tout de même pas prendre nos douaniers pour des imbéciles ou des malhonnêtes gens. Je les connais tous, eh ben, Monsieur Augustin. Je donnerais ma tête à couper qu'il n'y en a pas un qui soit capable, je dirais pas de commettre une mauvaise action, mais de faire une faute dans son service. Et puis regardez-moi cette côte-là. Voyez comme c'est plein de brisants et de mauvais courants. Pour aborder, faut que le temps soit tout à fait calme, mesdames. Le temps calme ici, ça se voit, mais pas souvent. Il y a toujours du remous, du ressac. La preuve, c'est que tous les ans, il y a des malheurs ou des bacs qui chavirent ou des baigneurs qui se noient. Aussi, je demande quel pouvait bien être ce bateau-là pour se mouvoir tout seul et pour passer à travers tout sans se cogner ou frotter sa quille à un rocher. Foi de Jean-Marie, c'est-à-dire d'honnête homme, je n'en ai jamais vu de pareil. Sans doute, observait le détective, celui ou ceux qui le conduisaient étaient-ils cachés à l'intérieur? Mais alors, comment aurait-il vu clair pour se conduire, surtout qu'il faisait nuit? Peut-être y avait-il des hublots. Bon, c'est possible, pourtant, le bateau n'était pas porté. Quelle dimension avait-il? Pourrais pas vous le dire exactement, mais environ. Ben, il avait bien une dizaine de mètres de long sur 2,50 mètres de large. Je vous l'ai dit, monsieur Augustin, on aurait dit un gros pot bleu. Qu'est-ce au juste un pot bleu? Oh, bien, vous n'êtes pas du pays. Non, je suis de Troyes en Champagne. Eh bien, monsieur Augustin, un pot bleu, c'est une manière de petit requin très vorace qui voyage par bande et s'en vient de se régaler ici de merlan, de maquereau, de mulet, de tout ce qui peut leur tomber sous la dent. Oh, ils sont pas longs à vous escater un filet. Ils ont une telle mâchoire qu'ils seraient capables de vous couper un bras et même une jambe sans qu'on ait le temps de dire ouf. C'est des sales bêtes, allez. Elles mesurent, dites-vous, 10 mètres de long. Oh non, 2 ou 3, et encore ce sont les plus gros. Quand je vous ai dit que le bateau en question leur ressemblait, c'était surtout par la forme. Car bon Dieu, si les pots bleus étaient aussi grands, ils seraient capables de couler nos bateaux et de nous boulotter comme une simple raie ou un pauvre bar. Moi, je dis ce qu'il y a, j'exagère jamais. Ici, on n'est pas à Marseille, mais dans le Morbihan. À quel point exact avez-vous rencontré cette étrange embarcation? Interrogeait Shandcock. Ben, droit en face de nous, monsieur Augustin. Et à quelle distance se trouvait-elle de la côte? À 2 000, à peu près. Et dans quelle direction marchait-elle? Ben, piquait en plein sur le trou du souffleur. Mais qu'est-ce que vous appelez le trou du souffleur? Oh, c'est une grotte, monsieur Augustin, dont personne n'a jamais vu le fond. Où c'est qu'à la marée montante, la mer monte en faisant du bruit, comme si c'était le tonnerre. Et vous dites qu'on ne sait pas jusqu'où va le trou? Non, monsieur Augustin. Bien des fois, il y a des gars qui ont voulu savoir de quoi il en retournait, mais ils n'ont pas pu avancer de plus d'une vingtaine de mètres sous terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'y voyaient plus clair. Ils n'avaient qu'à brander des falots. Ils en ont pris, mais ils s'éteignaient. Il n'y avait pas moyen de les tenir allumés. Et les lampes électriques? Oh, monsieur Augustin, c'est toute une autre histoire. Un jour, 2 Parisiens sont venus. Ils se croyaient plus forts que les autres et ils disaient aux gens du pays: Votre trou du souffleur, on en connaîtra bien la fin. Alors ils ont pris, comme vous dites, des lampes électriques. Ils sont entrés dans la grotte. Eh bien, ils n'en sont jamais ressortis. Oh mon Dieu! S'exclama Météore. Je suppose, reprenait le détective, que l'on a envoyé au monde du monde à leur recherche. Parfaitement, monsieur Augustin. Les frères Legaru, 2 pêcheurs qui n'avaient pas froid aux yeux, et puis forts et adroits. Oh, cela, ils n'avaient peur de rien, et tout le monde avait peur d'eux. Eh bien, Jean-Marie tristement déclarait: Ben, eux aussi, ils n'ont jamais reparu. Depuis ce temps-là, c'est même interdit d'entrer dans la grotte et de se baigner le long du bord blanc, à cause des lames de fond. Dame avec la mer, faut jamais rigoler. Il y a longtemps que c'est arrivé. Oh oui, oh, ça fait bien une trentaine d'années. Et depuis ce moment, personne ne s'est jamais aventuré dans la grotte. Personne. Pourtant, tout le monde ne connaît pas cette histoire. En effet, monsieur Augustin, mais on a mis à l'entrée un écriteau « Danger de mort ». De même que sur les plages que je viens de vous dire. Là, il y en a encore quelques-uns qui se baignent et qui d'ailleurs se noient ou manquent de se noyer. Mais pour pénétrer dans le trou du souffleur, c'est différent et ça se comprend. Tant qu'il y voit clair, un homme qui n'est pas prudent croit toujours qu'il se tirera d'affaire. Mais dès qu'il fait noir, oh là là, ça vous démontre tout de suite un bonhomme. C'est à qui ne fourrera pas son nez. Oui, c'est évidemment plus sage, approuvait Shandcock. Moi, affirmait Jean-Marie, je suis pas un poltron, tout le monde vous le dira. Je n'ai pas gagné la croix de guerre à vider des poissons, à plumer des poulets et à éplucher des pommes de terre, mais à faire la chasse aux sous-marins pendant la guerre. Et je vous assure que j'en ai vu des choses. Eh bien, monsieur Augustin, on m'offrirait 100 000 francs et même davantage pour entrer dans le trou du souffleur, que je vous répondrai, gardez votre pognon, moi je tiens à ma peau. Et vous avez bien raison, martelait Shandcock. Mais je vous ai retenu, mon brave Jean-Marie, et je vous ai fait perdre votre temps. Oh, pas du tout, monsieur Augustin. Je suis bien content d'avoir fait un brin de causette avec vous. Et c'est peut-être moi, plutôt, qui vous ai ennuyé. Mais pas du tout, mon ami, au contraire. Vous m'avez beaucoup intéressé. Alors, au revoir, monsieur Augustin. Au revoir, mademoiselle Armandine. Vous vous rappellerez ce que je vous ai dit, toujours à votre service. Merci, Jean-Marie, et au revoir. Le brave Kellec serra tour à tour la main du pseudo-valet de chambre et celle de la fausse cuisinière, sans se douter un seul instant de leur véritable identité. Puis il s'en fut rejoindre sa carriole, dans laquelle il monta fort allègrement. « Ça, fit-il, ça du beau monde. Je vais toujours m'envoyer une bonne bouteille à leur santé. » Chapitre 9. La nounou, le valet de chambre et la cuisinière. Dès que Jean-Marie eut quitté la chambre, Chantecoq, dont le visage exprimait une vive satisfaction, déclara à son secrétaire « Pendant que tu étais à Quibon, mon petit, je crois que j'ai déjà fait du bon travail. » « Ça m'étonne pas, patron. Non seulement j'ai établi le mobile de l'enlèvement du petit Jackie, mais je crois avoir encore découvert la façon dont ces ravisseurs ont opéré. Mais c'est tout simplement merveilleux. Je vais te mettre au courant en quelques mots. Patron, je vous écoute. Dois-je prendre des notes ? Oh, inutile, tout est casé dans mon esprit. Mais c'est pour moi. » Non, non, pas de petit papier. Si tu as des défaillances de mémoire, je serai là pour y suppléer. J'espère que je ne vous causerai pas ce surcroît de besogne. J'ose l'espérer. Et Chantecoq résuma avec cette concision qui lui était particulière. Jackie a été enlevé pour être substitué à un enfant qui était sur le point de mourir et qui devait bénéficier d'un très gros héritage. Les ravisseurs, venus par mer de l'Orient ou d'un port moins important, dans un canot automobile, d'un modèle très récent et assez caractérisé pour qu'il ne soit facile d'en retrouver la trace, ont accosté près d'ici, et se sont engouffrés dans le trou du souffleur.
Dans le trou du souffleur?
Parfaitement, grâce à un acheminement souterrain qui aboutit dans les anciens sous-sols du vieux fort, sur l'emplacement duquel est construite cette villa. Ils ont pu y pénétrer en toute facilité, y jeter leur comédie particulière, et le lendemain accomplir le rapt du petit Lachesnais. C'est clair, non comme de l'eau de mer, mais comme de l'eau de roche. Météor se tut. Il avait pour principe de ne jamais discuter les opinions, pas plus que les ordres de son patron. Néanmoins, il ne put s'empêcher de se gonfler les joues, ce qui signifiait, pour quiconque le connaissait, qu'il avait quelque chose d'important à dire. Chantecoq, mieux que personne, ne pouvait s'y tromper. Aussi fit-il avec un malicieux sourire. « Météor, pardon, Armandine, tu as une question à me poser. »«
Oui, patron. »«
Alors pourquoi hésites-tu ? »
Parce que j'ai appris par expérience que dans le service, vous n'aimez pas beaucoup à être interrogé.
C'est vrai, reconnaissait le roi des détectives, car dès que je suis en action, je déteste être dérangé inutilement. Mais étant donné que j'en suis encore qu'à la période d'études préparatoires, je t'autorise volontiers, même je t'ordonne, de me demander toutes les explications que tu jugeras nécessaires. Mais par exemple, dépêche-toi, car dans un quart d'heure, le guichet sera fermé.
Mon patron, je n'ai qu'un mot à vous dire.
Alors, c'est-à-dire une phrase?
Oui, c'est cela, une phrase.
Mais habitue-toi donc à employer toujours le mot propre, le terme précis.
Mais vous avez raison, patron. Allez, parle. Mais tout à l'heure, Jean-Marie a dit une chose qui m'a beaucoup frappé.
Laquelle?
Ben, il prétend qu'il n'y avait personne à bord du canot.
Ben, il se trompe, voilà tout. Il y avait au moins 4 hommes.
Mais comment le savez-vous?
Mais c'est le minimum des gens qu'il fallait pour jouer la comédie des revenants et procéder à l'enlèvement de Jackie.
Alors, où était-il? Caché sous le capot d'avant?
Pas du tout. Ils étaient bel et bien dans le bateau. Seulement, ils devaient être entièrement revêtus de combinaisons noires, de maillots de laine, comme des rats d'hôtel transformés en radeaux. Ils se confondaient avec la nuit. Et voilà pourquoi Jean-Marie, Ferdinand et le petit Le Gouzic ne les ont pas vus.
Patron, admirait Météor. Mais vous devinez tout, ce n'est plus de la police, c'est de la sorcellerie.
Mais pas du tout. Depuis bientôt 2 ans que tu es mon secrétaire, tu aurais dû te rendre compte que toutes mes déductions ainsi que mes hypothèses sont uniquement basées sur une logique vigoureuse, faite de ma longue expérience, jointe à tout ce que je peux avoir de bon sens.
N'empêche que c'est magnifique d'avoir un cerveau pareil.
Météore, déclarait Chantecoq avec bonhomie, je te retire ta parole, car je déteste l'odeur de la pommade.
Mon patron, laissez-moi protester. Je ne suis pas un flagorneur. Quand je fais des compliments, c'est que je les pense. Mais j'ai tellement d'admiration pour vous et d'affection, donc, que j'ai beau me retenir, il faut que ça sorte.
Tu es un brave garçon, affirmait Chantecoq. Mais maintenant, allez, assez parlé, agissons. Commençons par défaire nos malles.
Celle-ci, a indiqué Météor, contient les costumes, chapeaux, souliers postiches et ingrédients divers pour camouflage varié. Et celle qui est dans ma chambre renferme les différents appareils et accessoires dont vous pouvez avoir besoin au cours d'expériences, d'expéditions ou d'explorations qui présentent des obstacles et des dangers. Eh bien, tu vas commencer par retirer de celle-ci 2 masques contre les gaz, 2 pistolets somnifères, 2 lampes numéro 6 et l'échelle SL.
Bien, patron.
Tu cacheras tout cela dans le placard, semblable à celui-ci, et que j'ai repéré tout à l'heure lorsque Madame Lachesnais nous faisait faire le tour du propriétaire. Pendant ce temps-là, je vais ranger les costumes et les postiches de façon à ce que nous les ayons toujours sous la main. Cela fait, tu redescendras dans la cuisine. Tu prépareras le dîner de la nounou. Une soupe à l'oignon, 2 œufs sur le plat, et une cuisse de boulet que j'ai remarquée dans le garde-manger. Comme dessert ou de petits gâteaux secs et de la confiture. Pour nous deux, soupe à l'oignon et que également avec le veau froid. Qui voisinait avec le poulet, un bout de gruyère, le tout arrosé d'une bouteille de muscadet, et surtout un bon café, bien fort, car j'ai l'idée que nous ne dormirons pas beaucoup la nuit prochaine.
Entendu, patron, déclarait Météor. Et après s'être gonflé les joues, il fit en se retirant vers la porte.
Oh, ma tambouille ne vaudra certainement pas celle de Marie-Jeanne, mais. On fera de son mieux.
Météore, proclamait Chantecoq avec une gravité comique, rappelle-toi qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. La fausse Armandine, qui paraissait fort à l'aise dans ses vêtements féminins, s'éclipsa en un clin d'œil. Demeuré seul, Chantecoq se mit en devoir d'enlever de la malle et des frocs plus ou moins hétéroclites qu'elle contenait, ainsi que plusieurs boîtes qui renfermaient tous les objets, pâtes et fards indispensables à un savant maquillage. Il serra les vêtements dans un placard, les boîtes dans une commode, et dissimula sous le couvre-pied de son lit 2 sortes de corsets à mailles métalliques extrêmement serrées et 2 maillots noirs
deux masques contre les gaz et deux paires de sandales en cuir noir qui semblaient d'une solidité à toute épreuve. Cela fait, il sortit de sa chambre dont il ferma la porte, serrure à double tour, et dont il mit la clé dans sa poche. Il s'en fut rejoindre Météore qui, de son côté, avait terminé ses apprêts. Et après avoir recommandé à ce dernier de fermer sa porte à clé, il gagna avec lui la cuisine. Tout en se livrant à ses occupations, Chantecoq, qui avait un principe, c'était de ne jamais rester un moment sans penser, avait eu le temps de réfléchir à la conversation qu'il venait d'avoir avec Jean-Marie. Et il s'était dit, les individus qui se trouvaient à bord de ce canot devaient connaître admirablement non seulement la côte où ils ont dû aborder, mais encore la villa Kerivet et ses dessous. Par conséquent, ainsi que cela a été ma première idée, le cercle de mes recherches doit graviter autour des relations directes et même intimes des La Chesnaye. Dès demain, je commencerai mes recherches dans ce sens. Ce soir et cette nuit, la besogne que je me suis assignée suffira amplement à nous occuper. Pendant que ce brave météore se livre à ses travaux culinaires, commençons par faire un tour dans les sous-sols, car il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'après le récit très exact et très précis que m'a fait le maître de cette maison, il est évident que c'est par là que les malfaiteurs se sont introduits et qu'ils ont pris le même chemin pour déguerpir. L'existence d'une issue secrète est certaine. Selon toute probabilité, elle doit se continuer par un souterrain qui aboutit certainement dans une des grottes de la falaise et peut-être même à ce fameux trou du souffleur qui inspire à Jean-Marie une terreur aussi justifiée. Cela n'a d'ailleurs qu'une importance relative. Mais ce qui serait intéressant, ce serait par exemple si nos mystérieux bandits avaient laissé dans ce couloir secret des traces de leur passage qui me procuraient quelques indications plus ou moins vagues sur leur identité. Il faut parfois si peu de choses pour vous mettre sur la voie de la vérité. Animé de ses intentions, Chantecoq, qui ne sait jamais rien au hasard et ne s'aventurait pas davantage à la légère, commença par se livrer à une inspection générale des sous-sols. Tour à tour, il visita minutieusement la cuisine, la buanderie, la cave, la soute au charbon, qui communiquaient entre eux par des couloirs assez larges et bien aérés. Toutes ces pièces, de dimension normale, s'éclairaient par des fenêtres rectangulaires garnies de solides barreaux de fer et par où, pendant le jour, pénétraient l'air et la lumière. La nuit, il y avait partout des lampes électriques de 50 bougies qui répandaient partout la clarté à profusion. Le roi des détectives, après une inspection générale de ses locaux, se livra dans chacun d'eux à d'habiles sondages, mais aucune résonance de creux ne lui donna un seul instant, et dans aucune partie des murs et du sol, cette impression de vide qui indique généralement un espace libre dissimulé. Cela ne l'étonna pas outre mesure, et logiquement, ainsi qu'il se l'était déjà dit La Chesnaye, il songea que s'il avait existé un couloir souterrain dans l'ancien fortin, l'architecte, l'entrepreneur et les ouvriers qui avaient construit Kerivet auraient certainement découvert l'orifice au cours de leurs travaux et n'auraient pas manqué d'en faire part au propriétaire. Pourtant, raisonnait le roi des détectives, un peu désappointé, ce passage secret a existé, et non seulement il existe encore, mais il n'a pas été bloqué, puisque les gens du canot s'en sont servis la nuit dernière. Mais sapristi, où peut-il bien se trouver? Cherchons encore. Soudain, il eut une exclamation. Chantecoq, mon ami, un mauvais point. Et un gros. La première fois que tu te rendras coupable d'une bourde d'une pareille énormité, mais tu seras privé de pipe pendant 8 jours. Et le visage épanoui, il scanda. Et le puits, bonté divine, mais comment se fait-il que j'ai oublié le puits? Le limier venait tout à coup de se rappeler que 2 heures auparavant, lorsque Mme Lachesnais lui avait fait visiter le sous-sol, elle lui avait montré, dans un petit réduit à côté de la soute au charbon, le puits d'eau douce qui datait de l'ancien fort et qui, paraissait-il, ne tarissait jamais. Chantecoq se dit « Oh, cette fois, je crois que j'y suis !» Il se pencha au-dessus de la margelle de pierre, de forme circulaire et haute d'1 mètre environ. L'eau apparaissait à une profondeur de 6 à 7 mètres. L'entrée du souterrain, si elle existait vraiment, devait se trouver au-dessus de la nappe liquide. Mais la demi-obscurité qui régnait dans le réduit ne permit pas au détective de distinguer si dans la paroi il existait une solution de continuité, une excavation ou une porte qui eût indiqué au grand limier qu'il ne se trompait pas dans son hypothèse. Décidé à procéder à une vérification immédiate, Chantecoq retourna dans la cuisine où Météor Armandine, avec beaucoup d'assurance, était en train de préparer un bon dîner. « Donne la clé de ta chambre, » fit-il. « Voilà, patron. Attention, oh, voilà mon oncle. À la bonne heure. » Le faux valet de chambre monta aussitôt dans la chambre de son secrétaire, ouvrit le placard, en retira une corde assez mince, mais résistante, roulée sur elle-même, choisit parmi plusieurs autres une lampe électrique d'un puissant rayonnement, et cachant le tout dans une de ses poches, il redescendit au sous-sol et s'enfuit directement vers le puits. Après avoir attaché solidement à l'un des bouts de la corde la lampe dont il fit fonctionner le commutateur, il la descendit lentement dans le puits, dont, grâce au faisceau lumineux qu'elle projetait autour d'elle, il put examiner facilement les parois. « Bravo !» murmura-t-il au bout d'un instant. Le limier ne s'était pas trompé. Il venait d'apercevoir, environ à 2 mètres du sol, une plaque de tôle rouillée qui devait recouvrir une ouverture assez large pour qu'un homme, même de forte corpulence, puisse y glisser en rampant. « Reste à savoir, se dit-il, comment ça s'ouvre. Mais je m'en fais pas à ce sujet. Ma trousse numéro 3 contient certains instruments et produits chimiques grâce auxquels les ferrures les plus solides et les plus ingénieuses ne sauraient résister. Allons, tout va bien. Oh, je crois que je vais faire honneur à la popote de ma nièce. En attendant, occupons-nous de cette excellente nounou. » Il retourna dans la cuisine. Anne s'y trouvait avec la prétendue Armandine et avait déjà engagé avec elle une conversation animée. « Le petit a pris sa potion, » expliquait-elle, « et il s'est endormi, alors j'en ai profité pour vous dire un petit bonjour. »« Mais vous êtes bien aimable, » déclarait Chantecoq avec son plus gracieux sourire. Et il ajouta, « Ah, mais nous étions justement en train de nous occuper de vous, et j'allais monter dans votre chambre pour y mettre votre couvert. »« Déjà ?»« Oui, il est près de 19 heures. »«
19 heures ?»«
Oui, 7 autrefois. »
« Ah, c'est juste, je n'ai jamais pu m'habituer à ce nouveau système. Nous sommes en province, nous sommes des routiniers. Faut pas qu'on change nos habitudes. »
« C'est peut-être vous, somme toute, qui avez raison, » observait le roi des détectives. Et sans avoir l'air d'attacher à ses paroles une grande importance, il demanda « Vous êtes bretonne ?»«
Oh, pas du tout, » répliquait Anne. « Je suis du Havre. »«
Pas une belle ville. »«
Oui, très agréable à habiter. »«
J'ai manqué y aller en place. »«
Tiens, chez qui ?»
lançait la nounou.
« Oh, chez les Américains. »« Oui, on a pas mal là-bas. Et comment s'appelait-il?
Oh, je m'en souviens pas. La leur se reprenait.
Bien avant de me marier, j'ai été femme de chambre chez des Américains, au Pauave, mais à Neuilly. Ils s'appelaient Colnage. Oh, ils étaient très riches, naturellement. Il y avait le mari et la femme, et puis une demoiselle qui s'est mariée, elle aussi. Même qu'elle a épousé un frère de M. Wilbright, un de nos voisins, qui vient ici presque tous les jours. Elle est morte il n'y a pas longtemps. J'ai vu ça dans le journal. Il paraît qu'elle n'était pas très heureuse en ménage. Tony, le chauffeur qui est resté à son service, m'a raconté qu'on croit bien qu'elle s'est suicidée. Tout cela entre nous, n'est-ce pas?
Voyons.
Cela ne m'étonnerait pas autrement, car Miss Colmage, quand j'étais en place chez ses parents, était amoureuse d'un comédien qui travaillait pour les ciné-romans, un beau garçon qui, paraît-il, gagnait très bien sa vie. Seulement, les Colmage, ça vous remet l'or à la pelle, et puis c'était des gens très orgueilleux. Ils ont voulu que leur demoiselle épouse un homme de sa classe, comme ils disaient. Et puis, comme de raison, qui avait beaucoup de pognon, là, ils ont été refaits. Il paraît que le Wilbridge, d'abord, avait bien moins de galettes qu'on le croyait. Et puis, il faisait la noce, il jouait, il menait une vie de pantin, quoi. Alors, vous pensez si sa petite femme était malheureuse? D'autant plus qu'elle n'avait pas oublié son comédien, même qu'elle voulait tout plaquer pour lui. Seulement, elle est tombée enceinte. Alors, à cause du gosse, elle est restée, mais ça ne lui a pas porté veine. 3 mois après qu'elle a eu son bébé, on l'a retrouvée morte un matin dans son lit. On a fait une enquête, ou plutôt, on a fait semblant. On a raconté qu'elle avait une maladie de cœur et qu'elle était morte d'une alcoolique. C'est comme ça qu'ils ont dit. D'une embolie, rectifia le mimier. Oui, c'est ça, déclarait Anne, d'une embellie. Peut-être que c'était vrai. Peut-être aussi que c'est Tony qui avait raison. Vous savez, avec l'argent, tout s'achète et tout s'arrange. Oh, c'est bien vrai, soupirait Armandine, tout en surveillant sa soupe à l'oignon qui mijotait doucement sur le feu. Toujours avec son petit air de ne toucher à rien, Chantecoq questionnait. Il y a longtemps que cette dame Wilbright est morte. Oh, 3 mois environ. Ah, et le bébé, qu'a-t-il devenu? Oh, ça, j'en sais rien. Votre voisin, l'autre Wilbright, en quels termes est-il avec son frère? Ils doivent être fâchés, car jamais je ne l'ai entendu même prononcer son nom. Le coucou, suspendu au mur de la cuisine, sonnait la demie de 19 heures. Oh, excusez-moi, fit la nounou, mais il faut que je remonte. Ce pauvre gosse, je ne veux pas le laisser trop longtemps tout seul.
Je vous rejoins, décidait Shancock. Le temps de chercher tout ce qu'il faut pour mettre votre couvert.
Vous me gâtez, s'écriait Anna.
Comme une odeur de soupe à l'oignon si caractéristique appétissante se répandait dans la cuisine, elle ajouta.
Je crois que je vais me régaler. J'ai fait de mon mieux pour ça, déclarait modestement le cordon bleu improvisé. La nounou, qui était extrêmement gourmande, s'écria radieuse. Ah, oh, si vous avez trouvé tous les deux une bonne place, je vois que madame et monsieur sont bien tombés aussi et que nous ne sommes pas prêts de nous quitter.
Elle s'engagea allègrement dans l'escalier. Quand elle eut atteint le rez-de-chaussée, elle referma la porte derrière elle. Chantecoq, s'approchant de Météore, lui dit à voix basse: ça va même très bien. Et à moins d'un bec de gaz, mais avant 48 heures, nous saurons la vérité.
Patron, admira le secrétaire, vous avez réalisé là un de vos plus beaux coups de maître.
Pourquoi?
Parce que, quand vous avez accepté de vous occuper de cette affaire, je me suis dit que nous en avions au moins pour 3 semaines. Pauvre, mais dans 3 jours, n'en parlons plus. Oh, chouette, on va pouvoir se remettre en vacances. Et comment? Alors, les crevettes n'auront qu'à bien se tenir. À moins que, réservait Chantecoq. Quoi donc, patron? Scandait Météor avec une nuance d'inquiétude. Ben, je viens te le dire, le bec de gaz. Oh, permettez-moi, patron, de vous faire respectueusement observer que depuis que j'ai l'honneur d'être votre secrétaire, vous en avez déjà rencontré quelques-uns et que jamais encore vous ne vous êtes cassé le nez. Bon, j'espère bien que cela ne m'arrivera jamais. Au nom d'un chien, s'exclamait Météor, et ma soupe à l'oignon, pourvu qu'elle n'est pas attachée. Il souleva le couvercle de sa casserole, prit une cuillère en bois qu'il plongea dans le bouillon. Le sondage fut satisfaisant. « Oh, tout va bien, pas de bobo, » dit-il. Il se gonfla les joues en signe d'allégresse. Chantecoq dit « Je monte mettre le couvert d'âne. »« Bien, patron. »« Appelle-moi mon oncle. »« Alors, mon oncle, à tout à l'heure. » « Oui, mon neveu. »« Alors, bon, voilà que je me trompe. Moi aussi, oui, ma nièce. » Chantecoq s'en fut. 10 minutes après, il revenait. Pendant son absence, Météor avait versé son potage dans une soupière qu'il avait déposée sur un plateau. Et le service commença. Il se passa de la façon la plus correcte et à la vive satisfaction d'Anne, qui, très fière d'être servie par un valet de chambre aussi capable qu'Augustin, lui déclara qu'elle avait rarement dîné avec autant de plaisir. « Oh, mon homme va être content, » fit-elle, « lorsque je vais lui écrire que je suis dorlotée comme ça. »« Ah, mais vous êtes marié ?» soulignait le détective. « Ben, vous croyez peut-être que j'étais une fille-mère ?»« Non, pas du tout. » Oh, il n'y aurait pas de déshonneur à ça. Il y a des filles mères qui valent bien des honnêtes femmes. Oui, c'est mon avis. Ça aurait pu m'arriver, comme à bien d'autres, n'est-ce pas? On ne commande pas sa vie à l'avance. C'est une affaire de hasard. Moi, j'avais eu de la chance. Je suis tombé sur un homme qui est très sérieux. Il était chauffeur à la compagnie transatlantique. Il gagnait très bien sa vie. On était heureux, et puis un jour, il a ramassé un chaud et froid. Comment dit-on déjà? Oui, une pneumonie. Ah, non, non, c'est pas ça. Attendez donc, une pneumonie. Enfin, et depuis ce temps-là, il ne peut plus travailler. On l'a envoyé dans un sénatorium. Et moi, pour vivre et pour élever mon gosse, j'ai dû me mettre en place. Encore heureux que j'ai du bon lait. Sans ça, je me demande ce que je serais devenu. Et votre petit, qu'en avez-vous fait? Je l'ai mis en garde chez une de mes cousins qui demeure à Belbec. Dame, ça m'a fait mal au cœur de penser que lui allait être élevé au biberon et que moi, sa maman, faudrait que j'en nourrisse un autre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut, il faut. Et puis il paraît qu'il pousse comme un champignon. Mais me voilà encore parti à jacasser. Faut pas que je vous empêche de dîner. L'air de la mer, ça creuse. Bien vrai, demandait Chantecoq. Vous n'avez plus besoin de rien. Non, merci, Augustin. Un petit peu de café? Oh non, jamais le soir. Ça m'empêche de dormir. Alors, je vais vous dire bonsoir. C'est cela. Bonsoir, Augustin. Et tous mes compliments à Armandine. » Chantecoq, après avoir desservi la petite table sur laquelle Anne avait pris son repas, emporté le plateau sur lequel il avait déposé la vaisselle, regagna la cuisine où l'attendait Météor. Après avoir avalé quelques cuillerées de soupe, Chantecoq déclarait « Ah, Anne m'avait chargé de t'adresser toutes ses félicitations. Eh bien, j'y joins les miennes.
Décidément, tu as mieux que des dispositions culinaires, mais un véritable talent. Si j'avais eu le temps, je vous aurais préparé un homard à l'américaine, vous m'auriez donné des nouvelles. Mais où as-tu appris tout cela? Avec un de mes cousins qui était chef dans une grande maison bourgeoise. Mais c'est pas tout ça maintenant. Il faut pas que je rate mes œufs sur le plat. Il retourna à son fourneau. Décidément, se disait Chantecoq, en attachant ce brave garçon à ma personne, j'ai fait une excellente acquisition. Mais il est bon à tout. Je suis sûr que si je lui demandais de me confectionner un complet ou de me faire traverser l'Atlantique en avion, qu'il serait parfaitement capable de le faire.